Bonjour, je voudrais aujourd'hui commencer une série d'émissions d'hommage à une immense traductrice de la littérature yiddish, prose et poésie mêlée en français, Batya Baum, une amie, et donc traductrice qui nous a quittés, qui nous a laissés, je dirais, orphelins, de sa lumineuse présence au mois de juin dernier. Et je voudrais commencer donc dans cette évocation des innombrables traductions qu'a faites Batya Baum par son tout dernier opus publié. Il s'agit d'un recueil de poésie d'une poétesse, Deborah Vogel, ou Dvoire Vogel, à la prononciation yiddish, née en 1900, assassinée en 1942. Recueil paru aux éditions de La Barque, que je salue pour son courage et son obstination. Recueil paru en bilingue, qui plus est, et que vous pourrez donc trouver dans vos meilleures librairies, ce recueil de Dvoire Vogel, donc publié aux éditions de La Barque. Recueil qui s'intitule tout de même « Figure du jour, mannequin ». Ce sont deux collections de poèmes qui figure dans ce livre, dans cet ouvrage, Figure du jour et mannequin. Donc, Dvoire Vogel va naître à Bourgtin, une petite ville rurale de Galicie orientale, aujourd'hui en Ukraine, dans un milieu assimilé, polonophone, pas du tout yiddishophone, acquis aux idées sionistes. Son père lui a d'ailleurs donné une formation classique en hébreu, et dirigeait l'école de la fondation Baron Hirsch, puis un orphelinat à Lwów, à l'époque en Pologne. Pardon, en 1900, ce n'était pas la Pologne, c'était encore l'Autriche-Hongrie, donc Lemberg, qui devient Lwów après la Première Guerre mondiale et qui deviendra Lviv lorsque cette ville redeviendra ukrainienne. Lorsque la famille donc déménage dans cette ville de Lemberg, son père est directeur d'un orphelinat. La famille passe les années de la Première Guerre mondiale dans la capitale autrichienne, donc à Vienne, où Dvora Vogel étudie la philosophie, puis elle fait des études de lettres à Cracovie, puis elle parfait sa formation de philosophe à l'université, cette fois de Lwów, puisque nous sommes en Pologne. Elle passe une thèse de doctorat sur l'influence de l'esthétique hegélienne sur le philosophe et historien de l'art Joseph Kremer. Elle traverse l'Atlantique pour découvrir New York. Elle sillonne l'Europe, séjourne à Stockholm, où réside une partie de sa famille, Berlin, Paris, toutes ces villes qui contribuent à faire d'elle une intellectuelle parfaitement polyglotte, et qu'elle évoquera de façon récurrente dans sa poésie. Au premier chef, Paris, qui occupe une place privilégiée dans la cartographie de ses voyages réels et intellectuels. Et au cours de ses années de formation, elle apprend le yiddish, méprisé par les siens. De retour à Lwów, elle enseigne la psychologie dans un institut hébraïste de formation des maîtres, puis encouragée par Rachel Auerbach, dont elle a fait la connaissance dans des séminaires de philosophie, elle publie ses premiers poèmes en yiddish au début des années 30. En 1932, elle épouse l'ingénieur et architecte Scholem Barenblüt, dont elle a un fils. Tous trois seront assassinés lors de la liquidation du ghetto 10 ans plus tard. En 1932, elle s'est déjà distinguée par son rôle actif dans l'éphémère mais effervescente revue littéraire Zusteier, Contribution, qui donc paraîtra à Lvov entre 1929 et 1931, dans laquelle elle publie notamment un article sur Chagall et dont elle inspire la politique éditoriale, notamment en promouvant la publication d'œuvres graphiques, dont les premiers dessins de Bruno Schulz, dont elle va être très très proche. Et surtout, sans avoir été véritablement reconnue comme en ayant été une figure de proue, Dvorah Vogel entretient des liens étroits avec l'avant-garde artistique et littéraire yiddish, mais aussi et surtout polonaise. Elle est très active au sein de l'association d'artistes qui défendra le modernisme dans ses déclinaisons primitivistes, surréalistes et constructivistes à Lvov de 1929 à 1936, mais elle est proche du groupe de Cracovie entre 1932 et 1937, ou bien tout simplement d'artistes sans affiliation, tel le peintre, philosophe, mathématicien Léon Hvestek, théoricien de l'unisme et pionnier du constructivisme établi à Lodz à partir de 1931. Elle publie dans différentes revues polonaises très nombreux articles et critiques sur l'art contemporain, au travers d'essais plus théoriques en polonais et en yiddish. Elle étaye de son effort analytique la production artistique de l'avant-garde. Ces artistes lui sauront gré, par exemple, d'avoir conceptualisé pour eux l'art du montage et du photomontage. Avec les représentants du groupe d'artistes Artes, des habitués du café Atlas, notamment les peintres Emil Kunke, Otto Hahn, Henryk Streng, elle se fait l'avocate sur les terres polonaises de l'œuvre de Fernand Léger, peintre de compromis, dont l'œuvre, à mi-chemin du futurisme et du cubisme, est traversée ponctuellement par l'onirisme de Dada ou des surréalistes, se révèle très inspirante pour eux, d'autant qu'ils ont fréquenté son académie. Elle côtoie des écrivains polonais de premier plan, comme le poète futuriste Alexander Watt et l'artiste protéiforme Stanislaw Witkiewicz, dit Witkacy, qui fait son portrait dans son fief de Zakopane. Mais la postérité retient surtout l'amitié profonde qu'il a liée à Bruno Schulz, 1892-1942. Leur interaction intellectuelle au gré des promenades, des rendez-vous au Café Atlas, de leur activité éditoriale respective, et leur correspondance dans laquelle l'écrivain de Drobitsch, la ville de Bruno Schulz, jette les bases de ses boutiques de cannelle, publiées en 1933. On peut souligner peut-être ici quelques-unes des nombreuses caractéristiques artistiques qui les réunissent. Je rappelle que Bruno Schulz est traduit en français, donc écrivain juif qui écrit en polonais. Le motif du mannequin de vitrine, le jeu ironique avec les enseignes publicitaires, un langage à la fois musical et pictural, le principe de mythification de la réalité, leur sens de la parodie et du pastiche. Cet éclairage, parfois réducteur, lorsqu'il consiste à faire de Vogel la muse de Schulz plutôt que son interlocutrice privilégiée, conduit un peu à éclipser la figure charismatique qu'elle a été pour l'avant-garde polonaise. Pour finir, avec une conscience aiguë de ce que produit l'avant-garde yiddish, que ce soit à Berlin, à Moscou, à Varsovie ou à New York, elle est par exemple liée d'amitié avec le poète Glantz Lejeles, dont elle suit la production des introspectivistes new-yorkais, les Inzichisten, et elle collabore dans les années précédant le déclenchement de la guerre à leur revue, Inzich. Dvorah Vogel donne des conférences dans lesquelles elle s'efforce de démontrer combien la littérature yiddish s'inscrit désormais pleinement dans la littérature européenne. Au début des années 30, soucieuse de donner corps à ses réflexions esthétiques et faisant le choix radical d'écrire en yiddish, en rupture avec ses premières tentatives poétiques en polonais et en allemand, et donc faisant le choix de cette langue, le yiddish qu'elle a appris tardivement, Feugel publie deux recueils de poésie, dont le premier, Turkfiguren, Lieder, figure du jour, poème, 1930, rassemble des poèmes écrits essentiellement dans la décennie précédente et recueil illustré par son ami Henrik Streng. Suit alors Mannekinen, Mannequin, 1934. S'y ajouteront en 1935 des poèmes en prose, mêlant des considérations philosophico-esthétiques, observations du monde qui l'entoure, et publié sous le titre Acacias Blühen, Montage. Acacia en fleurs, montage. Elle assure elle-même la traduction vers le polonais l'année suivante, les deux éditions, toujours agrémentées des illustrations de Henrik Streng. Cette production poétique, en dépit de l'énergie déployée pour transcrire en yiddish les préceptes de l'avant-garde, est alors à peine remarquée. De ce point de vue, les poèmes écrits entre 31 et 33, regroupés dans Mannekinen, dans le cycle Ballade à l'eau de rose, Schundballaden, ont un goût amer. Faisant possiblement écho aux passes d'armes de la poétesse Kadia Mlodowski avec les membres du Pen Club de Varsovie pour défendre la littérature contre le fléau du Schund, dont cette littérature de gare, on pourrait même dire, ils s'inscrivent indubitablement dans cette inquiétude polémique à laquelle la revue varsovienne Literarische Blätter, feuille littéraire, page littéraire, ouvre largement ses pages au début des années 30. S'il peut y avoir un aspect expérimental à introduire des éléments de la littérature de gare dans la langue très articulée du modernisme, c'est aussi par ce tour ironique que Feugel tente de tordre le cou au goût douteux du lectorat yiddishophone, faisant ressurgir par là même la question énoncée dans sa correspondance du début des années 30 avec Schulz : pour qui écrit-on en yiddish ? Les deux recueils de poésie sont intimement liés, Turkfiguren pouvant être assimilé à une étape d'expérimentation. Écrit en vers libre, ce recueil, travaillant à partir d'infimes variations, déroule des thématiques quotidiennes, des tableaux urbains mettant en avant tantôt des matières, le lait, la tôle, le monde animal ou végétal, tantôt des éléments plus abstraits ou géométriques. Ces images récurrentes soulignant à leur tour la monotonie et la longueur des paysages urbains. On retrouve beaucoup de ces thèmes ou motifs dans le cycle éponyme qui ouvre Mannekinen, les mannequins. La sélection de poèmes, celle qu'a proposée Batia Baum, met précisément en avant cet aspect de continuation, soulignant du même coup l'amplitude et la profondeur, tant formelle que thématique, acquise entre ces deux parutions. Turkfiguren, figure du jour, s'ouvre sur un court préambule de deux pages en forme de manifeste artistique que Feugel complétera en 1937 par un article intitulé « Le montage comme genre littéraire », publié dans les tout premiers numéros d'une revue yiddish Boden. Elle y expose son ambition d'aboutir à un nouveau style naissant de l'ennui qu'elle adosse résolument à l'art pictural et plus précisément au cubisme, dont elle se réclame formellement, endossant les principes de monotonie, monotonie, et de statisme, kill static, ainsi que la recherche de constantes et de figures géométriques, schématiques, comme base de l'ornementation. On aurait tort d'omettre ici la part faite à la musique, si les commentateurs soulignent abondamment les liens avec la peinture, l'importance du rythme tend parfois à être oubliée. Des techniques fondées sur l'usage de la répétition, qui, lorsqu'elle s'appuie sur l'usage graphique des chiffres arabes, s'apparente à une forme de codage, l'énumération en boucle des mêmes éléments, choses, mots, situations, peuvent évoquer des aspects du sérialisme musical, à la Schönberg ou à la Alban Berg. Se défendant de se livrer là à des expérimentations artificielles, Feugel souligne la nécessité absolue, au prix d'épreuves à caractère vital, d'ergreift und bezahlt mit Leben proven, de cette poésie qu'elle qualifie de poésie de la vie statique. Lyrik von statischen Leben. Un exemple. plat décor de midi. Gris rectangle de papier, rectangle coloré, maison grise, maison colorée. Devant des carrés de papier se dressent des cercles rayonnés de rouge, angulaires et raides comme du papier, comme des gens affairés, de rouge dahlia. Et des cercles jaunes, petit soleil de tôle à grasse odeur d'huile persistante, se tiennent perdus comme des hommes au milieu du jour. Maison, dahlia, tournesol, tourne dans la première rue, dans la deuxième rue, depuis 5 heures du matin, depuis une semaine, depuis 10 et 20 ans. À présent, de légères poupées aux yeux de verre collent dans les cadres de fenêtres laquées de vert et blanc, des visages blancs et jaunes, triangles de carton blanc, jaune. Les gouttes de verre, Dieu en ellipse, aux fenêtres vertes, suivent le long des rues angulaires de tôle. La boule de métal de la chaleur collante, enclos de raies de rue. Dans la lumière jaune, résonne le verre, 2 heures durant. Alors, tous les jours sont perdus. Dans sa préface, Fogel cite le mot de Karol Irzikowski, dont le roman expérimental Paouba, la Chabrak, avait marqué les esprits en 1903, selon lequel il faut, je cite, brûler de l'intérieur pour produire une telle froideur. C'est à certains égards ce qu'elle parvient à démontrer dans le cycle Mannkinen de son second recueil, soutenu par une respiration plus ample, à l'imagerie et à la textuelle plus austère encore, mais où sourd une intensité brûlante qui dit aussi entre les lignes l'exaspération que suscite chez Fogel l'aliénation générée par la modernité et l'industrialisation, la marchandisation, l'automatisation, ainsi que la triste réalité de la condition féminine. Fogel y déploie, outre la répétition et l'accumulation, une nouvelle méthode, celle de la simultanéité, celle-ci découlant directement de la polyphonie de la vie. L'ambition fondamentale est de montrer qu'il y a une dynamique dans le statisme, formule qui semble exemplifiée par le dernier poème de sa suite géométrique consacrée à l'ellipse, comme arc bouté et parcouru d'une tension presque métaphysique. Un des champs d'application privilégiés de cette technique, technique de montage, consiste à explorer la spatio-temporalité domestique, lieu tragique de la simultanéité de l'événement et du non-événement. Pendant que, je cite Dvora Fogel, « rien ne se passe dans la vie de la femme au foyer », les soldats défilent, les révolutions éclatent. À certains égards, elle parvient à dédomestiquer l'univers familier, à remettre de l'étrangeté dans l'univers domestique. Bien entendu, la grande ville joue un rôle central dans l'élaboration de cette réserve visuelle dans laquelle Fogel puise inlassablement. Elle seule alimente aussi efficacement la réflexion moderniste sur la perception et sur l'art du montage. Plus précisément, c'est Lvov, placé au cœur de la géographie intime de Fogel, qui génère les images qui constituent la matière première de sa création et de celle du groupe Artes. Mais c'est aussi Lvov qui sert de terrain de mise en œuvre pour leurs expérimentations, qui peuvent s'exprimer dans la fabrication ou la peinture d'enseigne, la décoration de vitrines. Comme le soulignent les commissaires de l'exposition « Montage » Débora Fogel et la nouvelle légende de la ville, la métropole galicienne devient à ce jeu, je cite, « une sorte de tiers-espace où les grandes catégories philosophiques et esthétiques sont passées au feu de la critique, démantelées et remontées, où les identités sont renégociées, enjambant au passage les antagonismes habituels. De la collision d'éléments les plus divers naît la possibilité de leur reconfiguration, écrit Dvora Fogel, une loi physique qui vaut pleinement pour sa pensée et son art, née dans un entre-deux des langues, des cultures, des groupes et des lieux. Ces incursions dans des géographies plus occidentales sont aussi à lire en fonction de cet arrière-plan. Dernier élément, la nature du yiddish écrit par Vogel. Comme l'observe Anna Torres, qui a analysé en profondeur l'œuvre de Vogel, la poétesse se prive du jeu avec les composantes linguistiques que rend habituellement possible cette langue de fusion qu'est le yiddish, dès lors qu'elle renonce le plus souvent à employer des hébraïsmes, une tendance qui se confirme entre Torgfigurun et Mankinen, où, à contrario, insuffle dans ces hébraïsmes des significations inhabituelles ou déroutantes. Ainsi, les mazolis, la forme plurielle de mazl, désignant chez elles nos destinées et non pas les astres. L'effet produit est celui d'une langue dépourvue d'aspérité, mais pas désincarnée. Car, comme nous l'avons dit, sous le gris, les figures géométriques, la banalité et le kitsch pulsent une vie qui veut se dire dans sa plénitude, mais comme privée de terreau, reflet de ce modernisme européen international, capable de se couler dans tous les moules. J'aimerais, pour terminer cet hommage non seulement à Dvoire Vogel, mais aussi à Batya Baum, cette traductrice incomparable de la poésie yiddish, de la prose yiddish, et à laquelle je commence dans cette émission un hommage qui va se poursuivre à travers plusieurs émissions, vous lire deux autres poèmes de Dvoire Vogel. De la nostalgie. Aujourd'hui, j'ai acheté des cerises jaunes à l'odeur aqueuse, comme la nostalgie. Les cerises ne vieillissent jamais. Les cerises ont 16, 17 ans. Aujourd'hui, je suis pareille à une cerise jaune et ressens à nouveau le goût un peu vide d'errer dans les rues de la ville la nuit en compagnie de jaunes réverbères. Que chaque soir, quelque chose advienne en ce monde, que quelque chose arrive de tant et tant d'allées et venues, que tant de gens parcourent en un jour. Mais comme l'an dernier, et il y a 2 ans et 3 ans, de nouveau, il n'est rien arrivé. Mais j'ai compris le goût aqueux de la nostalgie. Poème donc de Dvoire Vogel, traduit par Batya Baum. Et pour terminer, un poème encore plus intimiste. Ma chambre. J'ai tapissé de papier peint nacré les 4 murs d'une pièce où passent mes jours et qui est ma chambre. Aujourd'hui, je veux être seule, seule avec un long soir, sans toi, sans personne. Mais aujourd'hui, la rue devant ma fenêtre est tapissée d'une tenture de cette douce, cette lasse étoffe de laine, du gris. Et je suis sortie. Suivre la rue lasse, pour une fois encore, revenir dans la fraîche coquille de nacre de ma chambre. C'était, dans une série d'hommages à Batya Baum, la poétesse Dvoire Vogel, que Batya a traduite du yiddish à travers 2 recueils, Figure du jour, Mannequin, aux éditions de la Barque.